Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Aylar yıllar geçti, hala ağlarsın. Artık yaşlarını sil Ayasofya.
Bonjour, Accent d'Europe se promène aujourd'hui dans ces lieux qui concentrent la mémoire d'un pays, des lieux qui prennent parfois un tour très politique, d'Istanbul à Vienne ou à Dublin. Première escale en Turquie, à Sainte-Sophie d'Istanbul, symbole parmi les symboles de la mégapole turque. Elle a été tour à tour église, mosquée, musée, et bientôt elle pourrait redevenir à nouveau une mosquée. La question en tout cas a alimenté les débats ces dernières semaines en Turquie. Le Conseil d'État doit se prononcer le 2 juillet sur la validité d'un décret gouvernemental qu'il avait transformé en musée en 1934. Le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 18 ans, semble décidé à franchir le pas. À Istanbul, un reportage d'Anand Lauer.
Le soleil de midi brûle les pavés de la place Sultan Ahmet, mais Ramazan et Feride se sont trouvés un coin à l'ombre. Ce couple de retraités turcs, casquette blanche pour lui, éventail fleuri pour elle, vient de visiter le musée Sainte-Sophie pour la toute première fois. Qui sait, s'ils reviennent d'ici quelques mois, peut-être devront-ils ôter leurs chaussures à l'entrée. Et peut-être Feride devra-t-elle se couvrir les cheveux. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, semble bien décidé à convertir le vieil édifice aux murs rouges délavés, presque roses, en mosquée. Ramazan et Feride n'ont jamais débattu de cette idée. Ils découvrent qu'ils ne sont pas du même avis sur la question.
Il y a assez de mosquées en Turquie. Je voudrais qu'elles restent un musée.
Mais c'est un lieu magnifique. J'aimerais bien pouvoir y prier. Malheureusement, c'est interdit.
Non, il y a déjà assez de lieux de culte. Un musée, c'est le meilleur endroit pour enseigner l'histoire aux gens.
À partir de 537 et pendant plus de 9 siècles, Sainte-Sophie est restée la plus grande église de la chrétienté, un joyau légué par l'empereur byzantin Justinien. Lorsque les Ottomans s'emparent de Constantinople en 1453, ils la convertissent en mosquée et la dotent au fil du temps de 4 minarets. Depuis 1934, depuis que Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie laïque, a transformé l'édifice en musée, ce statut est contesté. Des associations musulmanes militent pour regagner le droit de se prosterner sous sa coupole. C'est le cas de l'association de jeunesse anatolienne liée au mouvement Milli Görüş, Vision Nationale, dont est issu Tayyip Erdogan. Le président de l'association à Istanbul, Yunus Genç, parle de la mosquée Sainte-Sophie comme un symbole de la conquête.
Le sultan Mehmet II, au prix d'une longue bataille, a conquis Istanbul. En vertu du droit de la guerre, ce monument, qui était la propriété de l'empereur byzantin, est devenu la propriété de l'empereur ottoman. Il en a ensuite assuré la conservation pour les musulmans jusqu'au jour de l'Apocalypse, en la confiant à une fondation. Il nous l'a léguée en héritage. Bref, Sainte-Sophie est une mosquée, c'est un lieu de culte qui appartient aux musulmans.
Comme tous les partisans d'une Sainte-Sophie musulmane, Yunus Genç affirme que le document qui a transformé la mosquée en musée, une décision du Conseil des ministres datée du 24 novembre 1934, est signée de la main d'Atatürk, est un faux. C'est précisément sur ce point que le Conseil d'État doit se prononcer ce 2 juillet. Se prononcer une fois de plus, car ces dernières années, le même Conseil d'État a toujours rejeté les requêtes en ce sens. La différence cette fois-ci, c'est que Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à transformer Sainte-Sophie en mosquée si la justice, de moins en moins indépendante, lui donne raison. Yunus Genç, de l'association musulmane, se dit plus optimiste que jamais, même s'il regrette que le statut de Sainte-Sophie revienne dans le débat public uniquement lorsque le pouvoir y trouve un intérêt.
À intervalles réguliers, ces dernières décennies, les gouvernements ont utilisé Sainte-Sophie à des fins politiques. Et le pouvoir actuel ne fait pas exception. Peut-être que l'espoir est de se garantir les voix de nombreux électeurs en ouvrant Sainte-Sophie au culte musulman. Peut-être que c'est leur objectif, malheureusement. Quoi qu'il en soit, notre objectif à nous n'a rien de politique. Notre objectif est que Sainte-Sophie redevienne une mosquée.
En déjà 18 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan a eu tout le loisir de faire de Sainte-Sophie un lieu de culte musulman. D'autant qu'il n'a même pas besoin d'une décision de justice, un simple décret présidentiel suffit. Dès lors, pourquoi agirait-il maintenant? Kemal Can, un journaliste politique qui suit la droite turque depuis des décennies, propose deux explications. D'abord, l'explication de politique intérieure, à laquelle Yunus Genç faisait allusion à l'instant.
Depuis un certain temps, les sondages montrent que le pouvoir affronte une crise de confiance. On l'a bien vu l'an dernier, quand il a essuyé de lourdes défaites aux élections locales. Le pouvoir subit donc de très fortes pressions, et l'idée pourrait être de faire passer ces difficultés au second plan, de les faire oublier en recourant à des actions politiques très fortes symboliquement.
Toutefois, comme le souligne cet observateur, ce n'est pas en faisant de Sainte-Sophie une mosquée que Recep Tayyip Erdogan s'assurera la victoire aux prochaines élections programmées en 2023. Le statut de l'édifice ne déchaîne pas les passions, la plupart des Turcs y sont indifférents et l'opposition ne se mobilisera pas pour que Sainte-Sophie reste un musée de la République. Autrement dit, la stratégie habituelle du président, diviser la société, polariser pour mieux régner, ne s'applique pas ici. Dès lors, ce sont des facteurs externes qui devraient peser le plus lourd dans la décision du président turc, Kemal Can.
Je pense que cette affaire est davantage liée aux rivalités entre l'Occident et la Turquie, notamment en Méditerranée orientale. De la même manière que le pouvoir utilise les réfugiés dans ses négociations avec l'Europe, le statut de Sainte-Sophie est perçu comme un outil de marchandage. Et je pense donc que si le pouvoir obtient gain de cause dans d'autres dossiers, il pourrait renoncer à ses projets concernant Sainte-Sophie.
Les prochains jours diront si Sainte-Sophie, qui en a vu d'autres en presque 1500 ans d'histoire, changera une fois plus de statut. Dans les coulisses du pouvoir, il se murmure que les tapis de prière ont été commandés et que le président Erdogan fera une annonce le 15 juillet, jour du 4e anniversaire de la tentative de coup d'État de l'été 2016.
L'Autriche va ériger un nouveau mémorial de la Shoah. Le chantier vient de démarrer la semaine dernière à Vienne et doit s'achever à l'automne 2021. C'est l'occasion d'une réflexion sur le passé de l'Autriche, le travail de mémoire et l'antisémitisme actuel. On en parle avec notre correspondante à Vienne, Céline Béal. Bonjour Céline.
Bonjour Juliette.
Alors nous sommes en 2020, l'Autriche construit un mémorial, mais cela fait pourtant des décennies que cette petite république d'Europe centrale a reconnu sa culpabilité dans les crimes nazis après l'Anschluss, l'annexion par l'Allemagne d'Hitler en 1938. Céline, il n'y avait pas de monument avant celui-ci ?
Si, il y a bien sûr déjà plusieurs monuments dédiés à la mémoire des victimes juives du régime nazi à Vienne. Depuis 2000, il y en a même un en plein centre-ville historique, une sculpture appelée la Bibliothèque sans nom. Mais l'artiste austro-canadien Kurt Jakov Tutter milite depuis plus de 18 ans pour un nouveau mémorial honorant chaque victime par son nom, justement. Il a lui-même dû fuir l'Autriche dans son enfance et ses parents ont été exterminés à Auschwitz. Il considère que ces noms sont importants, comme on les trouve sur des mémoriaux en Israël, en Allemagne, en Belgique, en France. Il s'agit de respecter une certaine coutume juive, mais aussi les graver dans la pierre donne une tombe symbolique à des personnes qui souvent n'en ont pas, puisque les nazis ont brûlé leur corps.
Comment est-ce qu'on peut se représenter ce monument à venir, Céline ?
Le chantier se situe dans un parc devant la Banque nationale et en face de l'université. On y érige de grandes pierres arrangées de manière à former une sorte de mur et ce mur dessinera un ovale de 166 mètres de diamètre. Sur ces pierres seront donc inscrits 64 259 noms de victimes juives. Les visiteurs pourront déambuler le long du mur et le toucher. L'artiste a également prévu que 9 arbres soient plantés au centre de l'ovale pour inclure symboliquement les 9 Länder autrichiens. Notons également qu'une plaque commémorative rappellera que les nazis ont fait d'autres victimes, quoique moins nombreuses que les juifs, des personnes roms, handicapées, homosexuelles, des déserteurs, entre autres.
Cela fait une vingtaine d'années que l'initiateur se bat pour ce mémorial. Qu'est-ce qui a déclenché sa construction finalement ?
La décision a finalement été prise en 2018. C'était une année de commémoration ici, 80 ans après l'Anschluss. C'est le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne nazie, une annexion en grande partie acclamée par les Autrichiens et Autrichiennes de l'époque. Il a eu au départ des difficultés pour son financement, mais au final, c'est bien la République qui en a assuré la quasi-totalité. Quand même, dans son discours lors de l'ouverture du chantier, le président de la chambre basse du Parlement, Wolfgang Sobotka, a adressé un merci chargé de honte à Kurt Tutter au nom de la République. Écoutez-le.
En réalité, ce n'est pas à nos concitoyennes et nos concitoyens juifs qu'il incombe de combattre pour que soit érigé un mur avec les noms des victimes, ni à ceux qui ont eu la chance de survivre à la Shoah. Ça aurait été en réalité à nous de le faire depuis longtemps.
L'élu du Parti conservateur a également dit quelques mots sur le présent et l'avenir. L'antisémitisme existe toujours. L'Autriche a connu 550 actes antisémites en 2019, selon un rapport publié en mai. C'est une augmentation de presque 10% en 2 ans.
Merci Céline, à bientôt.
I see a parade.
Notre chronique en un mot cette semaine est irlandaise, signée Emeline Vin. L'île d'Irlande est divisée en deux entités, la République qui occupe les trois quarts de l'île et l'Irlande du Nord, province britannique, petite portion au nord-est. Mais ces deux noms sont rejetés par une partie de la population et le camp républicain qui défend la réunification des deux Irlandes. Bref, même les Irlandais en perdent leur latin.
Les gens parlent des six comtés, du nord et du nord de l'Irlande. Pour l'État, ici, on évoque l'Irlande, la République d'Irlande, l'État libre, les 26 comtés ou encore le sud.
Pas facile de s'y retrouver. Il y a dans l'île d'Irlande beaucoup de politique, des années de guerre et les dernières élections n'ont rien arrangé.
Good morning, it's 8 o'clock on Sunday the 9th of February and this is a special election edition of Morning Ireland.
8 février 2020, le Sinn Féin devient le deuxième parti du pays lors des élections en République d'Irlande. La formation nationaliste espère pousser en avant la réunification des deux Irlandes qu'elle voit comme une seule et même entité. Sa chef, Marie-Lou MacDonald, à la fin février.
Les dernières semaines ont fait figure de tremblement de terre pour la politique irlandaise. Au sud, on tente de former un gouvernement de changement. Au nord, nous avons réinstauré les institutions. Nous voulons être vecteurs de changements significatifs pour tous les habitants de l'île.
Électeur Sinn Féin depuis toujours, Noël O'Rourke souhaite voir lui aussi les deux Irlandes ne plus faire qu'une. Et lui aussi, il refuse d'appeler l'Irlande du Nord par son nom officiel.
Les six comtés, c'est comme ça que je l'appelle. C'est ce que mon vieux père disait. Je ne me disputerai pas à ce sujet, mais moi, je ne dirai pas Irlande du Nord. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le nord de l'Irlande. Quand vous prenez une carte de l'Irlande, la région la plus au nord du Donegal, en Irlande, est plus au nord que les six comtés.
Le terme « République d'Irlande » ne lui paraît pas non plus légitime. C'est le nom qu'avaient choisi les insurgés indépendantistes de la PAC 1916.
La République a été déclarée en 1916 et elle couvrait les 32 comtés de l'île. L'État est légitime, oui, mais ce n'est pas la République légitime. La République, ce sont les 32 comtés. C'est pour ça que les hommes et les femmes de 1916 se sont battus et sont morts. Pour moi, en tant que républicain irlandais, c'est insultant.
La partition de l'île et la création de l'État indépendant en 1922 ont été validées à l'époque par un référendum aujourd'hui contesté par certains. Les appellations utilisées par Noël ne sont pas les seules. Benton Ra est professeur de relations internationales à l'University College de Dublin.
Il y a plein de noms différents, chacun avec un sous-entendu politique. Ça montre une certaine contestation politique. Si vous la considérez légitime, vous appellerez l'Irlande du Nord, Irlande du Nord. Sinon, vous utiliserez les six comtés. Il y a un compromis aussi. Très souvent, nous dirons le Nord. C'est probablement le terme le plus ambigu. C'est à la fois géographique et politique. Donc, vous n'êtes jamais vraiment sûr qu'on parle d'Irlande du Nord ou du Nord de l'Irlande. As encompassing both
Northern Ireland and all the six counties. Pas de panique, si vous prévoyez des vacances en Irlande, la majorité des habitants ne prendront pas la mouche si vous utilisez une appellation à la place d'une autre.
Dans le nord-est de l'Albanie, à 24 ans, Denisa Gatchaï porte les espoirs de toute une famille. La région, longtemps isolée et pauvre en ressources, voit partir sa population, village déserté et école de plus en plus vide. Mais la famille Gatchaï veut continuer à vivre sur ces terres. Elle a décidé d'investir dans la culture des fruits secs pour passer d'une agriculture vivrière à une agriculture commerciale. À Elshan, village du nord-est de l'Albanie, c'est un reportage de Louis Seyé.
Ça doit faire un peu plus d'un an qu'on a commencé. On a fait le contrat, les documents et tout ce qui concerne le terrain. Et on a planté les noyers il y a environ 7-8 mois. Et depuis, petit à petit, les choses avancent. On est en train d'installer le système d'irrigation. On a construit le reversoir, tout ce qu'il faut pour que ça serve à nos noyers.
Le soleil n'est pas encore trop chaud et Denis Sakajai profite des températures matinales pour inspecter les terres familiales dans le village de Helshan, dans le nord-est de l'Albanie. Depuis quelques mois, cette jeune femme de 24 ans convertit les anciens champs de maïs en culture de noix. Un pari sur l'avenir sur lequel compte beaucoup la famille de Denisa, comme son jeune frère Ormir.
Cette variété de noix, c'est la Schlander. C'est ça qu'on cultive ici maintenant. Elle n'a jamais été cultivée avant. C'est la variété la plus fertile, la meilleure, et celle qui rapporte le plus.
Les fruits secs, ça rapporte toujours parce que ça se vend assez cher sur le marché, 4 à 8 euros le kilo ici en Albanie. Donc on s'est dit, pourquoi on n'en vendrait pas nous-mêmes? Ça peut nous ramener pas mal d'argent.
Améliorer le quotidien de la famille en tournant la page de l'agriculture vivrière pour se lancer sur le marché des fruits secs, c'est l'objectif de la famille Gadjai. Pour réussir, la famille a dépensé plus de 14 millions de lek, soit plus de 110 000 euros. Une fortune dans cette région, parmi les plus pauvres d'Albanie.
L'investissement le plus important, c'était le tracteur, bien sûr, mais aussi les plantes et puis la clôture. Celle-là, elle est juste provisoire, mais on a commandé les équipements qu'il faut pour clôturer les noyers. Et petit à petit, on avance, on travaille. Mais on n'a pas encore reçu tout le matériel à cause de la pandémie. On espère qu'on aura tout ça d'ici septembre.
Pour effectuer la transformation de sa ferme, la famille Gadjai a pu bénéficier d'une aide de près de 50 000 euros du programme IPARD, l'instrument de préadhésion pour le développement rural de l'Union européenne. L'Albanie est officiellement candidate à l'intégration depuis 2014. Une aide financière bienvenue pour les fermes albanaises, car l'agriculture reste très peu soutenue par les autorités de Tirana. L'expert en économie agricole, Drini Imami.
En Albanie, l'agriculture est l'un des principaux secteurs en termes de contribution au PIB et au marché de l'emploi. Près de la moitié de la population vit toujours dans les zones rurales et elle est largement engagée dans les pratiques agricoles. Malgré cette situation, si on compare aux autres pays de la région, le secteur agricole a beaucoup moins de soutien financier. Jusqu'à aujourd'hui, il a reçu bien peu d'aide de la part du gouvernement.
Légumes, plantes médicinales, fruits secs, petit à petit l'agriculture albanaise se fait une place sur le marché régional et certaines fermes se transforment.
Le modèle du système agricole, c'est celui de petites fermes. En moyenne, la taille des fermes albanaises se situe entre 1 et 2 hectares et la plupart ont des cultures diversifiées. Les fermes spécialisées sont rares. Donc certaines sont plutôt dans un système autarcique et d'autres orientées vers le marché. Mais au cours des 10 dernières années, on a vu dans certains secteurs de plus en plus de fermiers orienter majoritairement leur production vers le marché.
Si la famille Gadjai veut d'abord améliorer son quotidien à elle, elle espère que ses noix bénéficieront à l'ensemble du village. Depuis 30 ans, la région montagneuse du nord-est de l'Albanie connaît un exode dramatique de sa population. Près de 40% des habitants sont allés chercher ailleurs une vie meilleure. Une situation qui attriste Denisa.
Si tu quittes tout de suite ton pays sans faire d'efforts ici et que tu trouves un boulot ailleurs, et ben après c'est normal. Ici, les terres vont rester non cultivées. Elles ne vont plus rien donner, plus être fertiles. C'est vraiment dommage, car celui qui a des terres, il a beaucoup de richesses. Mais celui qui ne sait pas ça, il part et la région se vide.
Les jeunes de la région ne voient plus leur avenir sur ces terres sèches et difficiles à travailler. La plupart rêvent de grandes villes et d'émigration. Mais à 17 ans, Ormir, le frère, assure que ces jeunes pousses de noyer le feront revenir au village après ses études à Tirana.
Restez ici, travaillez ici. C'est ici que je suis né, c'est ici que je vais vivre et ici que je vais travailler et servir mon pays. Rien ne vient sans effort.
Pour que les noix de Denisa tiennent leurs promesses, la famille porte tous ses efforts sur la construction d'un système d'irrigation efficace.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Direction Générale Agriculture et Développement Rural de la Commission Européenne. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur RFI.fr ou vous abonner à travers votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.